Bonjour à tous les Auroviliens. Alors aujourd'hui, je vais vous lire quelque chose que j'ai pas lu depuis très longtemps, qui s'appelle « L'aventure de la conscience » de Sri Aurobindo, écrit par Satprem. Alors c'est le chapitre 8, « L'indépendance physique ». Après le mental et le vital, le physique, le troisième instrument de l'esprit en nous, joue un rôle particulier dans le yoga de Sri Aurobindo. Puisque sans lui, il n'y a pas de vie divine possible sur la terre. C'est extrêmement, extrêmement important pour les Auroviliens qu'ils entendent cette phrase. Après le mental et le vital, le physique, troisième instrument de l'esprit en nous, joue un rôle particulier dans le yoga de Sri Aurobindo, puisque sans lui, il n'est pas de vie divine possible sur la terre. Nous n'aborderons maintenant que quelques points d'expérience préparatoire, ceux-là même que Sri Aurobindo découvrit au début de son yoga, le yoga du corps. En effet, nécessite un développement de conscience beaucoup plus considérable que celui envisagé jusqu'à présent. Plus on descend vers la matière, plus il faut être en possession des hauts pouvoirs de conscience, car plus la résistance augmente. La matière est le lieu de la plus grande difficulté spirituelle, mais aussi le lieu de la victoire. Le yoga du corps dépasse donc le cadre de notre pouvoir vital ou mental et relève d'un yoga supramental que nous aborderons plus tard. Indépendance des sens. La matière est le point de départ de notre évolution. C'est enfermée en elle-même que la conscience a peu à peu évoluer dans plus la conscience émergera, plus elle devra recouvrer sa souveraineté et affirmer son indépendance. Car le premier pas, non la fin, notons-le, car nous vivons dans une suggestion presque totale aux besoins du corps pour subsister et aux organes du corps pour percevoir le monde. Nous sommes très fiers, à juste titre, de nos machines, mais il suffit que la nôtre ait un peu mal à la tête pour que tout se brouille, et si nous n'avons pas à notre disposition l'arsenal compliqué de nos radios, téléphones, télévisions, etc., nous sommes incapables de savoir ce qui se passe à côté, et même de voir plus loin que le bout de notre vue. Nous sommes des hyper-civilisés qui n'avons pas physiquement dépassé le stade sauvage. Il se pourrait que notre machinerie finalement ne soit pas tant le symbole d'une maîtrise que d'une terrible impuissance. La faute en incombe doublement aux matérialistes qui n'ont pas cru en le point de l'esprit intérieur et aux spiritualistes qui n'ont pas cru en la vérité de la matière. Cette impuissance pourtant n'est pas irrémédiable. Elle tient surtout à ce que nous croyons impuissants. Nous sommes un peu dans la position de celui qui aurait hérité des ancêtres une paire de béquilles et qui ne croirait plus en ses jambes. En somme, il s'agit de croire en nos jambes. Il s'agit de croire en notre conscience. Elle a non seulement des jambes, mais des milliers d'yeux et des bras et même des ailes. Par l'histoire même de notre évolution, la conscience submergée dans la matière s'est habituée à dépendre d'un certain nombre d'organes extérieurs pour percevoir le monde. Et parce que nous n'avons vu les antennes apparaître avant le maître des antennes, nous en avons déduit puérellement que ce ne sont que des antennes qui ont fabriqué le maître et que sans les antennes, il n'y a pas de maître, pas de perception du monde. Mais c'est une illusion. Notre dépendance des sens est une habitude seulement millénaire, il est vrai, mais pas plus inéluctable que les ailes, que le silex taillé de l'homme chez l'ien. Il est possible pour le mental, et ce serait tout naturel pour lui, si seulement nous pouvions le persuader de se libérer de son consentement à la domination de la matière, de prendre directement conscience des objets, des sens sans l'aide des organes sensoriels. Nous pouvons voir, nous pouvons sentir d'un continent à l'autre comme si les distances n'existaient pas, parce que les distances n'entravent que le corps, les organes, non la conscience qui peut être partout où elle veut en une seconde. Si elle a appris à s'élargir, il y a un autre espace, léger, où tout est rassemblé en un point clair. Peut-être attendons-nous ici quelques recettes de clairvoyance et d'ubiquité, mais les recettes sont encore une machinerie au deuxième degré. C'est pourquoi d'ailleurs nous les aimons. Certes, le Hatha Yoga a eu son efficacité, de même que toutes les méthodes plus ou moins yogiques qui consistent à fixer une chandelle allumée, tratak, élaborer des diététiques infaillibles, faire des exercices respiratoires et s'étouffer scientifiquement, pranayama. Tout sert, tout peut servir. Mais ces méthodes ont le désavantage d'être longues et d'une portée limitée. En outre, elles sont toujours incertaines et parfois même périlleuses quand elles sont maniées par des individus préparés ou purifiés. Il ne suffit pas de vouloir le pouvoir. Il faut que la machine ne craque pas. Quand elle reçoit le pouvoir, il ne suffit pas de voir. Il faut encore être prêt à comprendre ce que l'on voit. Pratiquement, notre tâche serait bien plus simplifiée si seulement nous comprenions que c'est la conscience qui se sert de toutes les méthodes et qui agit à travers toutes les méthodes. Que si nous allons directement à la conscience, nous aurons saisi le levier central, avec cet avantage que la conscience ne trompe pas. Même si on lui donnait, pour toute méthode, un morceau de bois, la conscience finirait par en faire une baguette magique. Mais ce ne serait pas la faute du morceau de bois ni de la méthode. Même si on l'enfermait au fond d'une caverne, elle finirait par trouver le moyen de voir dehors. C'est d'ailleurs toute l'histoire de l'évolution de la conscience dans le mental. Pour le chercheur intégral, le travail sur le corps est venu naturellement s'adjoindre à son travail sur le mental et le vital. Par commodité, nous avons décrit l'un après l'autre les divers étages de l'être, mais tout marche de front. Et chaque victoire, chaque découverte sur un plan quelconque a ses répercussions sur tous les autres plans. Lorsque nous avons travaillé au silence mental, nous avons absorbé successivement diverses couches mentales que nous avons réduites au silence. Un mental pensant qui constitue notre ratiocination normale, un mental vital qui justifie nos désirs, nos sentiments et nos impulsions, mais il y a aussi un mental physique qui nous donnera beaucoup plus de mal et donc la conquête est aussi importante pour la maîtrise physique que la conquête du mental pensant et celle du mental vital, le son pour la nature vitale et mentale. Il semblerait décidément que ce mental est un bouc émissaire du yoga intégral. Nous lui faisons la chasse partout, disons par parenthèse qu'il faut une aide très précieuse au cours de notre évolution et qu'il continue encore pour beaucoup d'hommes à être un agent indispensable, mais que toutes nos aides, quelles qu'elles soient si hautes, si divines soient-elles, se changent un jour en obstacle, parce qu'elles ne valent que pour un pas que nous ayons de ne pas faire ou plus d'une vérité à conquérir. Si nous acceptons cette simple proposition du haut en bas de notre échelle des valeurs, sans oublier d'y inclure l'idéal auquel nous sommes actuellement attachés, nous irions très vite sur le chemin de l'évolution. Ce mental physique est le plus stupide qui soit. C'est le vestige en nous de la première apparition du mental dans la matière. Un mental microscopique, têtu, craintif, borné, conservateur, qui nous fait vérifier 10 fois s'il faut que nous avons bien fermé une porte, que nous avons pertinemment fermé, qui s'affole à la moindre égratignure et se voit livrer aux plus affreuses maladies. Quelque chose va de travers qui est d'une méfiance imperturbable pour tout ce qui est ou ce qu'il faut changer. Il répète et répète en nous comme une vieille fille marmottante. Nous avons tous, une fois ou l'autre, fait connaissance où il nous donne assez de honte pour que nous l'envoyions promener. Mais là, en dessous, à marmotter tout seul, il faut toute la sonorité de notre mélange habituel pour ne pas l'entendre. Quand on a fait taire le mental pensant et le mental vital, on s'aperçoit alors qu'il est bien là et qu'il est affreusement collant. On ne peut même pas raisonner avec lui, il est trop bête. Il faudrait pourtant qu'il cède, parce que si le mental pensant est un écran à l'élargissement de notre conscience mentale vitale, est un obstacle à l'universalisation de notre conscience solide, à l'élargissement de notre conscience physique, qui est la base de toute maîtrise physique. Alors après, je vais vous lire l'indépendance des maladies. Quand nous avons délivré, comme nous sommes délivrés de la tension du mental pensant et de son bourdonnement, de la tyrannie du mental vital et de la fébrilité, ces exigences insatiables de l'épaisseur et des craintes du mental physique, nous commençons à comprendre ce qu'est le corps, sans toutes ces surcharges épuisantes et nous découvrons que c'est un merveilleux instrument. Docile, endurant, plein d'une inépuisable bonne volonté. C'est l'instrument le plus méconnu qui soit et le plus maltraité. Dans cet éclaircissement général de notre être, nous observons d'abord que le corps n'est jamais malade. Simplement, il s'use, mais même cette usure n'est peut-être pas irrémédiable, comme nous le verrons avec le yoga supramental. Ce n'est pas le corps qui est malade, c'est la conscience qui fait défaut. À mesure que l'on avance dans le yoga, on voit en effet que chaque fois que l'on tombe malade, ou même chaque fois qu'il y a un accident extérieur, c'est toujours le résultat d'une inconscience ou d'une mauvaise attitude ou d'un désordre psychologique. L'étude est d'autant plus intéressante que dès que nous avons mis le pied sur le chemin du yoga de Sri Aurobindo, il y a immédiatement quelque chose en nous qui est alerté et qui à chaque instant nous fait voir, toucher du doigt, même nos erreurs et la cause de tout ce qui nous arrive, comme si l'on prenait vraiment au sérieux notre recherche. Rien n'est laissé dans l'ombre et nous découvrons de plus en plus, parfois avec stupéfaction, une corrélation rigoureuse entre notre état intérieur et les circonstances extérieures. Les maladies, par exemple, et les accidents, comme si le sens de la vie ne se déroule plus du dehors vers le dedans, mais du dedans vers le dehors. D'un façonnement, l'un façonnant l'autre, même les circonstances extérieures les plus banales. En fait, plus rien n'est banal. Et la vie journalière apparaît comme un réseau chargé de signes qui attendent notre reconnaissance. Tout ce bien, le monde est un miracle. Nous commettons peut-être une erreur enfantine quand nous imaginons que la vie spirituelle consiste seulement à avoir des visions, des apparitions et compléter des phénomènes surnaturels. Le divin est plus proche de nous que nous le pensons. Le miracle, moins tapageur et plus profond que toute cette imagerie d'Épinal. Quand nous avons déchiffré un seul de ces petits signes qui nous croisent, devinez une seule fois l'imperceptible lien qui tient des choses. Nous sommes plus près du grand miracle que si nous avons touché la manne du ciel. Parce que le miracle, c'est peut-être que le divin est naturel aussi. Mais nous ne sommes pas assez attentifs. Alors voilà, aujourd'hui, je termine la lecture sur le chapitre 8, l'indépendance physique, indépendance des sens et l'indépendance des maladies, que je continuerai la semaine prochaine. Alors, pourquoi j'ai pris l'aventure de la conscience ? Parce que c'est le moment pour les nouvelles générations de comprendre quel est le travail intérieur de Sri Aurobindo et de Mère dans le corps. Je remercie Sri Aurobindo et Douce Mère. Merci Priya, Ganga Lakshmi, House of Mother Agenda, Savitri, Pavan.
Mm-hmm. Oui, vous écoutez Auroville Radio from Auroville, la ville internationale in India.